Place de la Toile, le magazine hebdomadaire des...
Ça, j'y joue beaucoup.
Hashtag.
Déclic, le nouveau magazine des nouvelles écritures sur Radio Campus Paris.
Bonsoir et bienvenue dans Déclic, le rendez-vous mensuel des amateurs d'histoire sous toutes leurs formes, que ce soit des jeux vidéo, des web documentaires, des expériences en réalité virtuelle ou même une pièce de théâtre transmédia. Tout cela, ce ne sont que des catégories inventées pour séparer les genres, voire même parfois les institutionnaliser. Et bien nous, dans Déclic, on aime bien faire s'effondrer ces barrières entre les genres et vous faire découvrir des objets qui sont souvent justement à la frontière entre toutes ces catégories qui sont préétablies. Alors à ce titre, on vous parlait le mois dernier de l'adaptation transmédia de Richard III, de William Shakespeare. Et bien ce mois-ci, nous allons dans un tout autre genre, un tout autre média, puisque nous allons nous pencher sur un jeu mobile qui s'appelle A Normal Lost Phone et qui nous invite à aller fouiller dans le smartphone d'un personnage pour comprendre ce qui lui est arrivé. Mais je ne vous en dis pas plus, je garde le mystère complet, mais sachez simplement que nous allons parler de la place de la narration dans les jeux vidéo dans cette émission de Déclic. Comment est-ce qu'on raconte une histoire avec des interfaces interactives? Comment est-ce qu'on crée de l'émotion tout en laissant le joueur libre de ses mouvements? Comment concilier interactivité et récit? Voici les questions que nous aborderons aujourd'hui dans ce 8e numéro de Déclic, avec la participation créative, comme toujours, d'Oriane Hurard, qui fera sa chronique en fin d'émission. Le fil d'Oriane. Déclic spécial narration et jeux vidéo, c'est maintenant. Que vous soyez à un joueur, deux joueurs ou des milliers, la partie commence maintenant.
Déclic, le magazine des nouvelles écritures.
Le transmédia ou transmédia storytelling est une nouvelle forme de narration qui
se caractérise par l'utilisation combinée de plusieurs médias
pour développer un univers, une franchise,
un regard nouveau et complémentaire.
Il s'agit de points d'entrée multiples et optionnels dans l'histoire. TV, internet, mobile, radio, édition, tablette, événements, jeux vidéo, mobile,
radio,
etc.
Peuvent être explorés et compris indépendamment les uns des autres, etc.
Nous recevons donc ce soir deux personnes. Nous recevons Fibre Tigre, qui est concepteur de jeux vidéo, auteur notamment du jeu vidéo Out There. Tu interviens également dans le podcast No Fun, je crois.
Non, pas du tout. Studio 404. Sont nos aimables concurrents.
Ah d'accord, très bien. Bon, on les salue. Merci d'avoir accepté l'invitation.
Merci Alexandre.
Et à ses côtés, nous avons Myriam Wally, qui est donc membre de l'équipe qui a conçu le jeu A Normal Lost Phone, une équipe internationale, qui est un jeu qui a été conçu dans un contexte un peu particulier, on aura l'occasion d'y revenir. Bonsoir Myriam. Pardon.
Bonsoir Alexandre.
Alors dans cette première partie d'émission, on va revenir un peu sur les basiques, parce que ça peut paraître évident pour certains joueurs un peu expérimentés, mais pour les profanes en tout cas, c'est pas forcément le cas. Et c'est vrai qu'on ne s'associe pas toujours instinctivement histoire et jeu vidéo, parce qu'on a l'impression qu'on est là pour interagir, qu'on nous fait exercer une activité, et que d'une certaine manière, l'interactivité, la délinéarisation du récit empêche d'avoir des formes de narration. Pour avoir joué à certains jeux vidéo, on sait que c'est une potentielle qui est de plus en plus fort. Là, on peut expérimenter des véritables récits. On a deux personnes autour de cette table qui se conçoivent, qui sont justement dédiées à la conception de jeux vidéo et qui s'y emploient. Est-ce que vous, par exemple, vous vous souvenez du premier jeu vidéo dont l'histoire vous a marqué?
Alors, je vais répondre comme ça à Myriam, réfléchir un petit peu. Par mon métier, je suis obligé de jouer à des jeux vidéo, de noter leur histoire et de les... J'ai eu des petites séquences émotionnelles tout à fait intéressantes dans ma jeunesse, mais le dernier jeu qui m'a mis une claque et qui m'a fait reconsidérer mon travail, et que je cite souvent, mais que j'aime pas plus que ça, c'est Dark Souls, qui est un jeu, un hack and slash, et que j'aime beaucoup parce que...
Hack and slash, est-ce qu'on pourrait...
Donc c'est un jeu où vous avez une épée et vous tuez des monstres, voilà.
D'accord, très bien.
Et qui est assez ambitieux quand même, on est dans les AAA, donc dans des jeux à gros budget. Et ce jeu qui dispose d'un univers très construit, très structuré, notamment par une architecture de level design, a une histoire, mais il ne vous la dit pas. C'est-à-dire qu'il vous dit le minimum, vous êtes affamé de savoir ce que c'est. Ce qui fait qu'il y a deux types de joueurs. Il y a le joueur qui joue et qui veut arriver à la fin et qui est dans ce qu'on appelle le méta-jeu, c'est-à-dire qu'il veut juste arriver à la fin et c'est terminé. Et il y a ceux qui veulent comprendre l'histoire, mais ils n'ont pas assez d'éléments pour ça. Et donc, ils sont obligés de combler ces trous par leur propre imagination ou par des théories. C'est ce que Stanley Kubrick appelait la part obscure de l'imagination. Et du coup, il n'y a pas un Dark Souls, mais il y a un Dark Souls par joueur, parce que vous le construisez vous-même. Et ça, c'est vraiment ce qui est très excitant dans la narration, dans la construction d'univers narratif dans le jeu vidéo.
C'est-à-dire qu'on peut arriver à la fin de Dark Souls sans avoir une seule version de ce qui s'est passé du début jusqu'à la fin. Il y a toujours des trous.
De toute façon, il n'y a pas de canon, il y a que des points d'interrogation. C'est-à-dire les concepteurs eux-mêmes du jeu n'ont rien dit, à tel point que même les modèles des personnages en 3D ont des noms, on va dire, dépersonnalisés. Ce sont des numéros, pour pas donner d'indices sur leur nature. Donc on est vraiment dans l'entretien du mystère, et on pourrait même dire, on pourrait même les accuser, leur montrer du doigt en disant en fait vous n'avez pas d'univers, vous êtes juste en train de nous pipoter. C'est peut-être vrai, mais le fait est que ça marche au final, et ça m'aide. Aujourd'hui c'est un de mes fondamentaux quand je travaille. Voilà.
D'accord. Donc une réflexion quand même très très poussée sur la narration, puisqu'on n'a pas une narration imposée et qu'on laisse beaucoup de place aux joueurs dans ce qu'il va recréer comme récit, justement. Toi Myriam, est-ce que tu as des références qui sont peut-être plus classiques, ou alors c'est aussi une référence Dark Souls pour toi?
Alors Dark Souls c'est pas du tout une référence pour moi, pour le simple fait que j'y ai jamais joué.
D'accord.
Par contre récemment, bah, je vais en reparler tout à l'heure, mais le jeu qui m'a vraiment marqué en termes de narration, c'est Her Story. Parce que justement, on m'en avait beaucoup parlé avant. Ça remet vraiment en question pas mal de trucs qu'on peut s'imaginer par rapport à ce que c'est qu'un jeu vidéo. Parce que.
Alors, est-ce que tu peux détailler un peu le fonctionnement de Her Story et en quoi est-ce que ça consiste ?
Alors, dans Her Story, en fait, on est devant un ordinateur. On a plein de petits bouts. En fait, c'est une base de données de la police. On a plein de petits bouts de vidéos, et en fait, on doit chercher en utilisant des mots clés. D'autres bouts de vidéo, et qui vont être mis bout à bout pour créer une espèce de puzzle narratif qui va reconstituer l'histoire du jeu. Et donc c'est une enquête, c'est une histoire de meurtre, et j'en dis pas plus parce que j'imagine qu'il y en a qui n'ont pas joué et qui sont intéressés. Mais du coup, c'est vraiment comme un puzzle en fait. Et il n'y a pas de linéarité du tout dans la façon dont on va aborder l'histoire. C'est qu'on a un point de départ, mais après on peut vraiment découvrir. Il y a plein de petites narrations imbriquées, et on peut vraiment découvrir l'histoire par n'importe quel bout en fait. Et
d'accord.
Je trouvais ça assez bien réalisé.
Donc ouais, ce qu'il y a de marquant dans les deux exemples que vous m'avez cités, c'est qu'il n'y a pas de volonté vraiment de relinéariser l'histoire ou de recréer un type de récit tel qu'on le reconnaîtrait au cinéma, mais plutôt de laisser aux gens leur vraiment une part active pour construire cette histoire et être acteur de ce genre. Donc ça, quelque part, ça contourne la question de base qui serait: est-ce qu'il ne faut pas de la linéarité pour de la narration et pour des émotions?
Alors moi j'irais plus loin. En tant que narrative designer, je pense que, démonstration très rapide, les jeux qui ont une histoire linéaire, qu'on vous force à manger en quelque sorte, Heavy Rain par exemple, sont considérés comme des jeux pas forcément excellents. Mm-hmm. Ensuite, vous avez des jeux comme GTA, dont on va dire qu'ils sont des phases de jeu avec du gameplay, donc jouables, qui sont entrecoupées de phases d'histoire. Et en gros, la phase d'histoire, c'est une phase qui vient récompenser votre phase jouable. Mm-hmm. Ce qui fait qu'en gros, comme votre gameplay est imparfait, vous mettez un pansement pour soutenir l'attention du joueur en donnant une histoire. Ce qui fait...
Qui est quand même le modèle le plus classique aujourd'hui, l'alterner des cinématiques et les avatars 3D.
Attendez, je continue juste ma réflexion. Donc on a deux points. Le troisième point, c'est qu'on a des jeux qui sont a priori sans histoire, mais pas sans récit, comme Tetris ou Mario, qui sont des jeux extrêmement denses en gameplay et qui sont excellents. Et quand on regarde cette progression-là, la logique voudrait qu'on soit amené à dire le jeu parfait, en fait, il n'a pas d'histoire. Voilà. Sinon... Ça, c'est ce que je disais il y a 3 ans, et maintenant je rajouterai cette phrase, sinon celle que le joueur veut bien se créer lui-même. Voilà.
Et alors, juste pour revenir sur, tu as fait la distinction à l'instant entre histoire et récit, c'est-à-dire l'histoire du joueur qui est en train de se faire sa partie et la narration qu'on essaye de créer dans l'univers du jeu.
Alors, tout est acceptable, mais plus précisément, l'histoire c'est l'histoire d'un jeu, donc c'est tel qu'on la conçoit. Maintenant, le récit c'est un peu ce qui serait attaché à de la narration émergente qu'on essaye aujourd'hui de faire. Aujourd'hui, un des succès de Minecraft c'est ça, c'est-à-dire la narration émergente, c'est-à-dire la maison de poupée en quelque sorte. Aujourd'hui, les gens jouent à XCOM, non pas pour tuer des extraterrestres. XCOM c'est un jeu où on a une escouade de soldats qui tuent des extraterrestres, et c'est un des. Alors, dans ce contexte extrêmement guerrier et bizarroïde, c'est un des jeux où il y a le plus de fanfic au monde.
D'accord.
Pourquoi ? parce que les gens se racontent des histoires.
Dans les fanfictions, c'est des...
Alors les fanfictions, ce sont des récits écrits par des amateurs qui racontent n'importe quoi. Vous pouvez parler de Sherlock Holmes ou des Pokémon, mais XCOM, voilà, c'en est. Mais je vais prendre un exemple encore plus parlant. Aucun jeu vidéo aujourd'hui n'arrive à susciter l'émotion d'un jeune qui habite à Sochaux, qui n'a pas d'avenir, et qui achète une fois par an Football Manager, qui prend l'équipe de Sochaux et qui lui fait gagner l'équipe de la Ligue des Champions. Et ce mec, tous les soirs, il va être à fond sur son équipe, il va s'imaginer des trucs, et chaque fois que l'ordinateur va marquer un petit but, il va avoir un pic émotionnel, son cœur va bondir, et ça, j'aimerais recréer ça dans un autre contexte que le foot, mais et ça, c'est un enjeu hyper intéressant, quoi.
Donc l'émotion par autre chose que l'histoire finalement, pas par la personnification avec un
héros. Par
un
l'histoire héro. Que se crée le joueur, c'est-à-dire le mec qui dit, il y a un petit ballon virtuel qui va rentrer dans les cages, il est à fond, c'est complètement émergent parce que c'est pas préprogrammé par le joueur, il est à fond, il veut que ça se passe ou ça se passe pas, mais que ça se passe ou ça se passe pas, il aura eu un pic émotionnel incroyable qu'on n'aura pas fait si je lui avais écrit parfaitement la victoire de Sochaux en Ligue des Champions. Voilà. Et ça c'est un enjeu, on va dire l'enjeu au moins des années qui viennent.
D'accord. Myriam ?
J'ajouterais même que même sur un jeu qui se veut linéaire et qui a déjà une histoire, il y a forcément des joueurs qui vont aller écrire des fanfictions, qui vont aller faire toutes sortes de fan quelque chose, des fan art, etc. Parce que ça ne peut pas satisfaire tout le monde, en fait. Chaque joueur va de toute façon se faire sa propre histoire avec le matériau de base qu'il aura. Et c'est un truc qu'on peut voir dans énormément de jeux, même si à la base, ils n'ont pas volonté à être émergents.
D'accord. Alors, un jeu qui a suscité un pic émotionnel très très fort et qui a également été très très bien distribué, c'était le jeu qu'avait fait Telltale Game sur The Walking Dead. Je vous propose juste très rapidement d'écouter un extrait de la fin du playtest qui avait été réalisé par PewDiePie, qui est donc un célèbre YouTuber qui teste des jeux vidéo en quantité industrielle. Et vous allez écouter l'émotion qu'il a à la clôture de cet épisode, qui est le premier épisode de Walking Dead Interactive.
Me too.
Oh, fuck that.
Donc là, on vient d'entendre l'extrait de fin de playtest donc de The Walking Dead par PewDiePie, où on voit que là, dans ce format-là, donc The Walking Dead, est-ce que l'un de vous deux pourrait présenter rapidement comment est-ce que c'est structuré à nos auditeurs pour qu'on voie ce genre-là, parce que c'est un genre spécifique tout de même.
Alors, Telltales a créé une série de jeux qui sont les descendants des point and click des années 90. Et un peu, j'ai un jugement assez sévère sur Telltales, dont je pourrais développer plus tard, mais en gros, ils rachètent des licences et ils font des jeux d'aventure plus ou moins linéaires, avec des, quand même des, ce sont pas des, ce qu'on appelle des one true pass, donc il y a des chemins de traverse possibles qui racontent une histoire. Ils sont extrêmement narratifs, il y a des acteurs qui sont dedans, qui sont modélisés en 3D cel shaded, voilà.
Voilà, c'est effectivement très cinématographique et on l'a vu là. Dans l'extrait qu'on vient d'entendre, on a vraiment toute la réutilisation des codes du cinéma avec le violon, la scène finale extrêmement larmoyante, etc. Et donc du coup, ça c'était une des possibilités offertes, en tout cas dernièrement, pour que d'un jeu vidéo qui, on va dire, n'est pas dans la famille traditionnelle des jeux vidéo tels qu'on les voit de l'extérieur, dans le sens où le gameplay est extrêmement basique, voire inexistant, puisqu'on fait des choix toutes les 2-3 minutes par arborescence, on avance un peu comme dans un livre dont on est le héros, et qui a eu un grand succès. Je sais qu'en 2017, ils ont fait des partenariats avec Marvel pour étendre ce genre de fiction. Vous, ça vous paraît être un genre qui fonctionne parce qu'il est extrêmement simple à prendre en main, ou c'est un objet comme ça qui est plus promotionnel finalement qu'une vraie expérience de jeux vidéo?
Tu parles de The Walking Dead en particulier ou du jeu épisodique en général ?
Non, plutôt du jeu épisodique en général, c'est-à-dire de recréer une fiction délinéarisée avec un format épisodique, des choix qui sont posés toutes les deux minutes et une narration par embranchement qui est très proche de celle des livres dont on est le héros finalement.
Moi personnellement, je trouve que dans Walking Dead, c'est très très bien fait en fait. Donc j'ai un peu la même réaction que PewDiePie à la fin. C'est vraiment adapté en fait à cette narration-là. Je pense que ça a aussi un gros intérêt plutôt en fait marketing, hein, d'avoir le fait d'avoir plusieurs épisodes. C'est comme si on avait plusieurs jeux. Mmh. Du coup, il faut l'utiliser, c'est mon avis, si c'est vraiment adapté à l'histoire qu'on a envie de raconter et à la façon dont on la raconte.
D'accord.
Alors,
Fibre Tigre, donc il y a
alors,
dit tranché.
Alors, si tu veux, tu peux m'inviter, je t'en parle 4 heures. Hein. Donc, mais pour dire rapidement, c'est un genre qui a eu son plein essor dans les années 90. C'est un genre qui a un genre d'accès, c'est-à-dire que vous n'avez jamais joué aux jeux vidéo, vous pouvez commencer par un point and click, ça ne vous fera pas de mal. Voilà.
Ouais.
Et c'est un genre aussi réservé pour les seniors. Aujourd'hui, les seniors jouent massivement. Et si vous allez à la FNAC, il y a plein de jeux qui s'appellent Objets et Énigmes cachées à la FNAC. Et les seniors adorent, ça se vend très bien. Il y a même des pratiques limites au niveau de l'arnaque à ce sujet-là. Bon. Et concernant Telltales, Point and Click, si on veut vraiment s'intéresser au genre, il y a eu des gens de qualité extraordinaire dans les années 90. On parle de George Lucas, Laurent Skywalker, Top Music. On était vraiment... Il y avait Steven Spielberg qui s'est penché sur le script de The Dig, qui est un jeu de 1996, tu vois. Et on a eu cet âge d'or avec des gros génies qui se sont dit on va raconter des histoires comme ça, et on a eu nos classiques. Et après, on a perdu cette expérience-là, c'est-à-dire vraiment comme l'histoire de l'Atlantide, c'est-à-dire ça s'est englouti dans les flots et les gens se sont dit on va refaire des point and click par nous-mêmes. Et il y a eu, pour moi, L.A. Noire de GTA, L.A. Noire de Rockstar, c'était un très bon point and click next gen qui a été un petit peu décrié, qui était à gros budget, donc il n'y a pas eu la suite. Et Telltales, il faut comprendre l'histoire quand même de ce studio. Ils font des point and click, ils ont d'abord la licence Monkey Island qui est énorme, ensuite ils ont la licence Sam & Max, ensuite ils ont la licence Retour à le futur, ça pèse, que des jeux très mauvais. Et tout d'un coup, ils chopent la licence de Walking Dead. Et The Walking Dead, ils disent vous travaillez avec nous, mais on vous met nos scénaristes dessus. Et là, effectivement, vous avez des scénaristes poids lourds, des gros génies qui font un jeu extraordinaire. Et du coup, effectivement, Telltales, tout ça, ils se font racheter par Lionhead. Mais après, ils ont continué à faire des jeux. Sur Game of Thrones, c'est pas des petits bras, ou sur d'autres sujets, et ils sont relativement médiocres.
D'accord.
Donc, le point and click, comme tout, comme le rap, comme une leçon de géographie, quand c'est fait par un mec qui maîtrise son sujet, il n'y a rien de plus beau au monde. Voilà. Quand c'est fait par des mecs qui veulent bien faire, ça ne suffit pas, il faut le talent.
Et puis c'est aussi un type de jeu qui a connu une nouvelle jeunesse avec des interfaces mobiles auxquelles ils sont tout à fait adaptés, puisqu'on peut très facilement réduire les commandes à un écran.
En plus, on parle souvent de narration au travers de notre petit prisme français occidental, mais je veux dire, le point and click à la japonaise, qu'on appelle le visual novel, c'est quelque chose qui est immensément répandu là-bas, qui pénètre pas trop trop chez nous et qui marche très très bien aussi, tu vois.
Ouais.
Donc c'est un genre qui existera toujours, qui sera toujours bien. Il y a eu un âge d'or, il y en aura un plus tard, voilà.
D'accord. Je vous propose, on parlait justement d'émotions dans les jeux vidéo, de comment les créer. Je vous propose de faire une petite pause musicale afin d'écouter Polybius, un titre qui s'appelle Music for Old Technology. C'est donc un jeune musicien qui, pour cette chanson, s'est tout simplement installé au fond d'une piscine vide avec des vieilles consoles de jeux vidéo pour composer cette ode qui est extrêmement mélancolique et qu'on croirait justement dédiée à ses anciens compagnons vidéoludiques.
was when I needed you. I made a place for lonely hearts to find. It's where I wait for you. I'm gonna stay until the end has come and make my peace with you. Maybe this is just an old deceit. Maybe it's the truth.